Bintiminoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Bintiminoudi avec ce soir comme invité Marie-Thérèse Mariotti. Marie-Thérèse Mariotti, bonsoir.
Bonsoir Patrick Vinciguerre.
Vous êtes conseillère territoriale Pélabane, le groupe de droite qui a pour chef de file Jean-Martin Mondoloni à l'Assemblée de Corse. Vous êtes aussi depuis 2014 maire de Taliou-Isulac, commune de 600 habitants environ au sud de Bastia, qui fait partie de la piève de Tavagne, qui va de la montagne à la mer avec un littoral qui se développe. Il y a notamment un centre de vacances assez grand. Il y a aussi le parc Galet, une sorte de musée à ciel ouvert à 9 hectares. Au menu de ce Bintiminoudi, Marie-Thérèse Mariotti, les gilets jaunes, stop ou encore, vous nous donnerez votre sentiment. La politique régionale aussi, vous êtes dans l'opposition. Nous évoquerons notamment la politique économique de la collectivité de Corse et l'existence ou non d'une fracture territoriale. Mais avant, c'est lié d'ailleurs, nous intéressons au rôle des maires. Il y a, paraît-il, une crise de vocation. Le spleen des maires, c'est le dossier de cette semaine avec le témoignage d'un maire d'une petite commune de l'intérieur.
Bintiminoudi, le dossier.
Des maires au bord de la crise de nerfs, des maires qui ne comptent pas se représenter en 2020, le malaise va croissant, il y en aurait un sur deux. À l'origine de cette crise de vocation, une baisse des aides pour les communes qui ne s'engagent pas dans une politique de ralentissement des dépenses, une diminution du nombre d'emplois aidés et aussi une fonction éprouvante, un véritable sacerdoce, surtout pour les maires des petites communes au contact direct de la population sans filtre de l'administration. François Berlingue est maire de Perro-Gazewitch et depuis 2006, un village de l'intérieur d'une centaine d'âmes au sud de Bastia qui fait partie de la Costa Verde. Il comprend le désarroi de certains de ses homologues mais ne cède pas pour autant au pessimisme ambiant.
Dans une petite commune, on est à la fois au contact direct du mécontentement des gens qui peut exister et puis en même temps, on vit dans une communauté qui très souvent est très unie et qui permet de dépasser des problèmes et des contradictions qui peuvent intervenir. Lorsque je dis que les maires sont au plus près des difficultés, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me plains pas, moi, parce que je pense que si on est élu, il ne faut pas se plaindre du comportement des électeurs. Mais je pense que ce qu'on peut constater, c'est que globalement, les exigences des gens sont devenues de plus en plus fortes par rapport à leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, le maire, il devient responsable de tout, y compris de ce dont il n'est pas responsable. Du fait qu'Internet ne fonctionne pas, du fait que les routes soient mal entretenues. Si ça continue, on va même être responsable de la météo. Qu'on ait le bio, il y a un golpe à dire au maire. Alors, je comprends qu'il y ait cette forme de lassitude. Ceci dit, je ne suis pas persuadé qu'au bout du compte, il y aura autant de maires qui se représenteront pas.
Réponse en 2020. En attendant, qu'est-ce qui maintient la flamme? Pour François Berlingue, ni la gloire, ni les indemnités.
Les indemnités, je vous rassure, c'est pas ce qui permet de vivre à un maire. La gloire, je pense pas que la gloire elle soit énorme, à part que les gens vous appellent Ojo Maire. Mais bon, des fois, c'est dit avec un peu d'ironie aussi. Mais ce qui peut donner l'envie, c'est le fait de vouloir s'occuper de la communauté. Bon, c'est vrai que les moyens ne sont pas énormes, mais on a quand même la possibilité d'améliorer certaines choses, de faire en sorte que la vie d'un village soit un peu plus agréable pour les gens qui y vivent.
Autrement dit, un dévouement au service de l'intérêt général.
Bintiminoudi, Patrick Vinciguerre.
Avec ce soir comme invité Marie-Thérèse Mariotti, conseillère territoriale Pélabène à l'Assemblée de Corse, mais je m'adresse tout d'abord à la maire de Taliou-Isulac. Est-ce que vous partagez, Marie-Thérèse Mariotti, ce témoignage de François Berlingue, maire de Perro-Gazewitch, commune voisine d'ailleurs de la vôtre? En gros, il dit, maire, c'est difficile, mais bon, le jeu en vaut la chandelle, le jeu étant l'intérêt général.
Je le rejoins, bonsoir d'abord à tout le monde, je le rejoins sur un point, c'est qu'effectivement les exigences sont de plus en plus fortes. On n'est pas responsable de la météo, mais on est quand même responsable des conflits de voisinage. On est arbitre, on est médiateur, on est assistante sociale, mais ça à la limite c'est même le côté extrêmement positif de la fonction. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a que des droits, on n'a pas forcément des devoirs. On est, je vous disais, responsable éventuellement du coq qui chante dans le champ du voisin et des chats qui se multiplient. Bon, ça c'est un peu ironique, mais pour être un peu plus sérieux, je peux comprendre d'une part le malaise de certains maires parce qu'il y a une charge de travail colossale, il y a un désengagement de l'État. il y a une baisse des dotations, mais pas que des dotations. Il y a également un retrait de l'assistance technique, de l'expertise que l'État mettait à la disposition des maires. Je vous prends un exemple très, très concret. Au 1er janvier 2019, l'État ne va plus instruire les permis ou les actes d'urbanisme de la commune de Talieu-Isolage et nous avons créé un service mutualisé à la communauté des communes. Mais la commune devra payer. Donc il y a baisse de dotation, mais en même temps désengagement. Donc ça, c'est un peu compliqué.
Alors François Berlingue a fait allusion aux indemnités perçues par les maires des petites communes. Effectivement, ce n'est pas grand-chose, et c'est un euphémisme, hein, autour de 1200 euros bruts mensuels, me semble-t-il, pour une commune entre 500 et 1000 habitants, et autour de 650 euros pour celle de moins de 500 habitants. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout d'abord revaloriser ces indemnités? Ce serait déjà un signe de considération?
Je ne suis même pas persuadée que le problème soit un problème d'indemnité à ce jour. Effectivement, 658 euros bruts pour les communes de moins de 500 habitants, c'est compliqué. Mais je pense que plus que la rémunération, c'est la surcharge administrative que nous combattons. C'est le fait qu'on ait de plus en plus de responsabilités tout en ayant moins de compétences. C'est ça qui est extrêmement compliqué. Et c'est un peu l'impression qu'on est de moins en moins compris, que le rural, par exemple, se désertifie. Les petites communes de l'intérieur ont pratiquement les mêmes prérogatives et les mêmes objectifs que moi, que je ne me plains pas, parce que moi je suis quand même une commune du balcon de Tavagnes, une commune relativement importante à l'échelle de la Corse, avec un certain nombre de projets. Je ne pense pas que le problème soit un problème de rémunération.
Le malaise au fond de ces maires, c'est la fracture territoriale, que vivent difficilement, bien sûr, en premier lieu la population, mais ça remonte au niveau des maires.
Absolument. Et vous savez, la fracture territoriale, on a commencé à la voir et à la vivre. Bon, moi j'étais jeune élue, quand on a mis en place la réforme des rythmes scolaires. Enfin, quand le gouvernement Hollande l'a mise en place, sans même se poser la question si les communes du rural, isolées, ou même pas trop, avaient les moyens de le mettre en place. Et là, on s'est rendu compte déjà que même à l'échelle de la Corse, entre les villes, entre guillemets, et les communes du rural, il y avait déjà une différence. La fracture, voyez l'absus révélateur, territoriale, on la voit aussi quand on a des problèmes de réseau internet, quand on a des problèmes de route, quand on a des problèmes de route enneigée, c'est tout ça. Aujourd'hui, ça devient compliqué sur ces points-là.
Alors, la majorité nationaliste s'est engagée fortement dans la résorption de cette fracture territoriale, comme avant-elle d'autres majorités. Est-ce que les choses avancent ou est-ce que le développement de l'intérieur, finalement, n'est qu'un vœu pieux? Qu'en pense l'élu de terrain ?
L'élu de terrain dit que je vais être assez critique, non pas sur la mandature nationaliste, mais en tout cas sur la collectivité unique, qui fait que la façon dont elle s'est mise en place nous a fait perdre comme contact des échelons intermédiaires, des échelons de proximité, et qu'aujourd'hui tout devient... Alors certes, on va attendre encore un petit peu. Ça ne fait qu'un an, quelque part. On attend que les organigrammes se mettent en place. Mais la complexité et la difficulté vient du fait aussi qu'aujourd'hui, on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Exemple flagrant, les routes. On est en train aujourd'hui, et je ne mets absolument pas en cause les agents de terrain, mais quand vous pensez que les petites communes comme la nôtre, comme la mienne, est obligée de faire appel à ces agents de voirie pour entretenir les ex-routes départementales, c'est un peu compliqué. Ça, c'est la fracture également territoriale. Donc effectivement, tout le monde veut dynamiser le rural. Maintenant, attendons les actions.
Alors, cette question de la fracture territoriale nous amène à la crise des gilets jaunes. D'ailleurs, Emmanuel Macron, lundi soir, a fait part de son intention de renouer le contact avec les maires, de les rencontrer. Au-delà de cette fracture, il y a la fracture sociale. Vous avez été surprise par l'importance du mouvement des gilets jaunes qui, sans être structuré, a tout de même réussi à faire reculer le gouvernement comme les syndicats ne l'avaient jamais fait avant, en tout cas depuis des dizaines d'années.
Oui, c'est un événement extrêmement surprenant et qui mérite d'être analysé amplement. Donc, pour revenir un petit peu à cette crise, moi, je considère que ce qui a été le catalyseur, c'est-à-dire l'augmentation du prix du carburant, moi, je peux le comprendre. Justement, ça participe à la fracture territoriale. Moi, je peux comprendre aujourd'hui que même si nous voulons tous évoluer de façon vertueuse vers une écologie, je dirais, des carburants et de la route, aujourd'hui, ce n'était pas le moment. Et ça, je peux très bien comprendre que la racine des revendications ait été l'augmentation du prix du carburant. Aujourd'hui, ce qui est difficile à comprendre, c'est que je pense qu'il y a la forme d'un côté et le fond de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a fait preuve de beaucoup de maladresse, n'ayons pas peur de le dire, vis-à-vis effectivement de la population, mais même des élus. Rappelez-vous la fronde de l'intégralité des 12 régions de France qui avaient quitté effectivement la table. Vous avez vu effectivement l'accueil qu'il a eu auprès de l'Association des maires de France.
Il ne s'y est pas rendu, hein.
Il y a eu de la maladresse, il y a eu de l'incompréhension, et ça a pu être perçu comme de l'arrogance et du mépris. D'ailleurs, ça a été repris par bon nombre de présidents de région. Mais maintenant, et peut-être des phrases maladroites, la fin du mois, la fin du monde, mais il y a beaucoup d'irrationnel là-dedans. C'est ce qui me fait aussi un petit peu peur, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme dans l'automobile, d'où je viens, un produit, il y a la qualité réelle et la qualité perçue. Vous avez beau avoir un produit qui tient la route, si l'image de marque n'y est plus, c'est compliqué. Et c'est ça qui est difficile. Et moi, on peut pas m'accuser de Macron. Aigu, puisque vous savez pertinemment qui j'avais soutenu pour la présidentielle. C'est inquiétant.
De quoi est le nom, ce mouvement des Gilets jaunes, d'une souffrance légitime, d'une révolte populaire populiste, avec le risque des risques qui pourraient faire souffrir notre démocratie?
Ce qui est très compliqué, vous l'avez dit, c'est que je pense que c'est multifactoriel. Il y a des revendications qui sont tout à fait, à mon avis, recevables. Je pense qu'il y a une souffrance parmi une certaine classe de la population. Il y a une souffrance, mais paradoxalement, on ne parle pas dans cette crise de chômage. On ne parle pas, par exemple, d'accès au logement. Or, moi, à l'échelle de ma commune, les deux principales revendications, en tout cas, demandes, c'est je voudrais avoir un job et je voudrais avoir un logement à un prix intéressant. Donc, ce qui est un petit peu peur aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que Emmanuel Macron a apporté des réponses, certes, très catégorielles. Et à mon avis, il y a probablement un risque de contagion. Pourquoi pas demain, les fonctionnaires, les routiers, les agriculteurs. Je pense que c'est extrêmement difficile de pouvoir dire comment ça va évoluer. Enfin, en tout cas, personnellement, j'espère qu'on va retrouver la raison. S'il y a des problèmes, il faut les mettre sur la table calmement. Il faut savoir déjà avec qui négocier. Ouais. Bon, je ne suis pas au gouvernement, ça ne vous a pas échappé, mais déjà savoir avec qui négocier et surtout, quel est le problème à traiter. Et aujourd'hui, il est très hétérogène.
Alors, il y a un acte 5, un autre samedi de manifestation qui est sur les rails, malgré l'attentat de Strasbourg, malgré les annonces d'Emmanuel Macron de lundi soir. Ça vous inquiète ?
C'est inquiétant parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui manifestent avec leur cœur, mais qui sont forcément débordés par tous ces casseurs. On en est, je ne sais plus à combien de morts, c'est quand même gravissime. On se retrouve...
Il y a eu une nouvelle victime aujourd'hui.
On se retrouve avec des commerçants qui sont à l'agonie et ce ne sont pas toujours des grandes enseignes de luxe, parce que là, on sombre un peu dans la caricature. On a beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants qui sont en train de passer à côté du chiffre d'affaires de leur mois de décembre. Et là, je pense que il serait temps peut-être de calmer un petit peu le jeu et d'essayer, puisque le gouvernement semble tendre la main, peut-être essayer pour les revendications des Gilets jaunes de négocier.
On a compris le message. En Corse, Gilles Simeone a décidé de lancer une grande concertation, une conférence sociale qui débutera le 18 décembre. Renouer le dialogue, c'est ce qu'il faut faire absolument.
Ça ne fait jamais de mal de renouer le dialogue, hein. Donc ça c'est évident. Le fait d'avoir voté la mise en place effectivement de cette conférence sociale, ça a été une résolution votée à l'unanimité. C'est quelque chose de toute façon d'appréciable. Maintenant, voir qui il y aura autour de la table, de quoi va-t-on parler. Je sais que le point de départ, ça va être le problème de la hausse des carburants. Mais je pense qu'il faudra de toute façon l'élargir, entre autres à l'emploi, parce qu'on sait qu'on a plus de 22 000 chômeurs.
Mais d'autres réunions sont prévues ensuite.
Hein. Et je ne peux pas vous en dire plus à ce stade, mais je pense que oui, nous allons être fixés, je pense, lors de la prochaine session du mois de décembre. Personnellement, je pense qu'il faudrait l'élargir à l'emploi, c'est quand même important. On a 22 000 et quelques chômeurs et toujours 5 000 emplois non pourvus, et pas que des emplois non qualifiés. Ça, c'est quand même très important. Il faut certainement également l'ouvrir à l'accès au logement et ce que l'on fait des logements sociaux aujourd'hui. Ça, c'est fondamental.
20 minutes, l'émission politique.
Marie-Thérèse Mariotte, on revient au dossier strictement corse, à la politique régionale, avec Jean-Martin Amendolone. Vous siégez donc sur les bancs de l'opposition, une opposition qui semble toujours avoir beaucoup de mal à se faire entendre. Comment l'expliquez-vous, une majorité trop écrasante des nationalistes ou une absence de projet alternatif, pour tout dire, de propositions venant de l'opposition ?
Bon, bah déjà, si l'opposition a du mal à se faire entendre, il faudrait peut-être déjà que les médias relaient un peu plus. Je vous lance un petit pic, la position de l'opposition. Ça ne vous a pas échappé que demain, notre groupe donne une conférence de presse, puisque nous allons expliquer, effectivement, faire un bilan de mandature. Nous avons quand même posé, en ce qui nous concerne, 15 questions orales, 3 questions écrites, 16 motions, des motions extrêmement pragmatique et dont une grande moitié a été rejetée, des tribunes politiques, des amendements et 114 interventions. Alors, c'est pas inaudible. Déjà, il faut qu'il y ait de gros dossiers.
Il n'y a rien qui ressort vraiment, une opposition frontale. Par exemple, la semaine dernière, il y avait un dossier symbolique où il y a 15 jours plus tôt, c'était cette affaire d'emoji là, qui a fait beaucoup parler hein, pour des raisons de timing principalement, puisque ça venait après une rencontre avec les Gilets jaunes. On ne vous a pas entendu et d'ailleurs, vous avez voté pour. Alors que vous accusez par ailleurs la majorité de développer une politique trop importante des symboles et de la communication.
Je ne peux pas vous donner tort sur ce sujet. Nous avions émis énormément de réserves en commission. Le timing était extrêmement malvenu, parce que voter d'une part 53 000 euros de budget pour un émoticône ou un émoji, je ne sais pas comment on l'appelle. Je sais que ça ne se fait pas, mais bon, nous aurions dû au moins nous abstenir sur ce dossier, je pense. Et je vais faire mon mea culpa, c'était un peu probablement une erreur de vote, en tout cas de notre part. Mais nous n'étions pas extrêmement favorables au vote de ce dossier, ça peut arriver.
C'est une occasion de faire entendre, pour le coup.
Exactement.
Alors, je n'avais pas prévu d'en parler, Marie-Thérèse Mariotte, mais le dossier s'invite dans l'actualité aujourd'hui. Les déchets, le marché d'exploitation de ces déchets se complique. Le CIVADEC a ouvert aujourd'hui les enveloppes et toutes les propositions sont au-delà du montant estimé, 300 euros la tonne, auquel il faut ajouter 108 euros de traitement. Donc, ces propositions sont en attente et n'ont pas été retenues. Comment ça s'en sortir ? Peut-on s'en sortir, tout simplement ?
Le dossier des déchets est un dossier, ça ne vous a pas échappé, extrêmement problématique, mais il va au-delà, je dirais, de la consultation sur le transfert des déchets sur le continent. Il y a d'une part la convention à signer, la convention quadripartite entre les intercos, l'État, le CIVADEC et la collectivité de Corse. Aujourd'hui, à l'unanimité, puisque je fais partie du bureau du CIVADEC, je représente la Costa Verde, à l'unanimité, nous avons décidé de reporter le vote, ou en tout cas de cette...
La décision,
puisque nous avons décidé de tous nous rencontrer en janvier pour aller voir l'exécutif avec un dossier commun. Vous avez raison, le problème aujourd'hui, c'est principalement... Alors, je ne vais pas revenir sur le plan déchets, puisque vous savez que nous l'avons combattu, vous voyez, comme quoi on n'est pas toujours d'accord, on a fermement combattu, on a voté contre.
Vous étiez revenu sur la proposition de l'incinération,
mais
notamment.
Mais ça allait au-delà de l'incinération, nous étions déjà pas d'accord sur la solution, comment dirais-je, le moyen terme, le court et moyen terme, nous n'étions pas d'accord sur la façon de gérer ces 5 ans transitoires. Donc aujourd'hui, vous avez un problème de signature de convention, mais là, je pense qu'on va y arriver, parce que
c'est assez technique. Simplement, il y a aujourd'hui 70 000 tonnes, me semble-t-il, en souffrant, 70 000 tonnes
au bas mot,
de les exporter. Ça coûterait déjà très cher, on le voit, près de 400 euros la tonne, et en plus, on n'y arrive même pas.
Alors bon, déjà, les 400 euros la tonne, ça n'engage que vous, parce que effectivement, nous n'avons pas eu connaissance, j'étais ce matin au CIVADEC, du montant total du coût de l'exportation, mais on sait que ça va être un coût très important. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que si les centres vers lesquels nous devrions aller, je le rappelle en passant, 3 incinérateurs et un centre d'enfouissement sur le continent, ça semble acté, mais il faut obtenir les autorisations préfectorales, effectivement, il y a là l'appel d'offres transport. Bon, les plis ont été ouverts, le président du CIVADEC a eu l'occasion de s'en expliquer aujourd'hui, le dossier a été mis un petit peu de côté, et c'est l'État qui est en train d'analyser la réponse technique et juridique qui a été faite. Il y aura un coût de toute façon.
Et où trouvera-t-on l'argent ?
C'est une bonne question. Et c'est d'ailleurs
c'est
la question.
À vous de répondre.
Eh ben, ça ne vous a pas échappé que je ne fais pas partie de l'exécutif. C'est une très bonne question et c'est la question que nous poserons lors de la prochaine session. Parce que au-delà du coût de l'exportation, qui va quand même se chiffrer vraisemblablement à plus de 10 millions d'euros, sur les 70 000 tonnes, et je pense qu'on est objectif sur les 70 000 tonnes, ensuite il y a les investissements que le CIVADEC a estimé à 95 millions d'euros. Et ensuite, il y a tous les investissements des intercommunalités, puisqu'elles sont toutes décidées aujourd'hui à expérimenter un certain nombre de collectes séparatives.
Donc, somme très importante. On va parler à présent très rapidement économie, développement économique. C'est un peu votre domaine de prédilection. Le schéma régional de développement économique a été adopté en décembre 2016. Il se veut être la matrice de l'action économique de la CDC. Des conventions devaient être signées avec les intercos. Concrètement, depuis 2016, les choses ont-elles avancé? Se sont-elles traduites sur le terrain?
Alors, le schéma régional, le fameux SRDE2I, c'est la loi NOTRe, déjà, qui l'imposait.
Hein.
Vous avez bien fait. C'est déjà la loi NOTRe qui l'imposait. Il a dû être fait dans un laps de temps extrêmement court. C'est un schéma directeur, donc il est très très macro. Là, je ne peux pas incriminer la majorité nationaliste, parce que par définition, ce sont de grandes orientations stratégiques que la mandature, donc nationaliste, veut mettre en place en termes de développement. Donc ça peut paraître souvent abstrait. Il y a plus de 90 pages. Il y a un certain nombre d'angles d'attaque, mais c'est souvent un peu une liste à la Prévert. Mais là,
c'est un peu le PADIC du développement économique.
Exactement. C'est ce que j'ai appelé le PADUC du développement économique. Donc on veut tout faire, on veut développer la silver economy, on veut développer l'innovation, un peu de développement durable, ça fait du bien. Aujourd'hui, si vous voulez, donc le SRDE2I a été adopté. Nous nous étions abstenus parce que nous avions un certain nombre de réserves, entre autres sur le chiffrage. Il a été voté il y a 2 ans. Nous n'avons pas de retour encore sur les résultats concrets de la mise en place de ce SRDE2I.
Au-delà de ce schéma, est-ce que l'économie n'est pas le parent pauvre de la politique en Corse aujourd'hui? Je ne parle pas simplement de la majorité, même dans l'opposition, on sent qu'il n'y a pas de projet sur ce thème majeur quand même.
Je ne suis pas d'accord avec vous. L'économie se développe à partir des initiatives individuelles. Aujourd'hui, force est de constater, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal de sortir des deux piliers fondamentaux.
La collectivité de Corse a un rôle moteur, en principe.
La collectivité de Corse
a un rôle moteur.
Elle devrait avoir un rôle moteur, et en particulier dans le Riacuisto Economico e Sociale. Donc, c'est à l'exécutif à faire un point, entre autres, sur les actions de la DEC. Alors, très concrètement, même si le rapport est un rapport très lourd, puisque et pouvant être considéré un peu comme un carcan, il doit s'adapter aux évolutions de l'économie. Aujourd'hui, concrètement, nous n'avons pas vu les retombées sur le terrain. Donc je vous invite, je peut-être vous souffler une idée, de demander à Jean-Christophe Angelini, qui l'avait présenté, de savoir quelles sont concrètement les réalisations, et surtout...
Ça tombe bien, il sera la semaine prochaine, notre invité.
Très bien, et surtout, parmi les axes fondamentaux, il y avait combattre activement toutes les formes de précarité. On en parle, c'est à l'ordre du jour, et renforcer l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et d'insertion. Donc ça, c'est extrêmement important pour voir concrètement comment ça a pu se mettre en place.
Donc on attend les résultats, et puis on attend l'opposition aussi, des propositions.
Absolument, nous serons là.
Merci, c'est le mot de la fin, Marie-Thérèse Mariot.
Merci à vous.
Merci d'avoir été notre invitée.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Bintiminoudi avec Marie-Thérèse Mariot, c'est terminé. Une émission à écouter ou réécouter sur notre site bleu rcfm.fr. La semaine prochaine, même jour, même heure, Jean-Christophe Angelini, président de la DEC, chef de file du PNC au parti de Diana Zionegros. Voilà, dans un instant, le retour de Michael Andréani.